Voilà, j'ai donc repris au vol ce terme, opération, théâtre des opérations, en essayant de le projeter dans le champ radiophonique et aux différents stades du processus créatif. Opération, donc, sur plusieurs plateaux successifs et parfois coulissants les uns sur les autres. Petit A, la scène mentale où s'esquisse peu à peu le projet. Petit B, le théâtre même de l'événement sonore. Petit C, le siège de l'opération chirurgicale, pour reprendre un terme de Walter Benjamin à propos du montage textuel. Opération chirurgicale et opération dramaturgique, c'est-à-dire le studio acoustique. Et puis, petit D, enfin, l'oreille caverneuse, l'oreille labyrinthique de l'auditeur qui, en somme, c'est l'ultime opérateur au sens où Mallarmé employait ce mot dans le livre. Non, mais tout d'abord, peut-être un bref retour en arrière pour essayer d'éclairer la démarche d'auteur qui a été généralement adoptée à l'atelier de création radiophonique, donc depuis sa création en 1969. On peut dire que pendant de nombreuses années, à partir du moment où la radio, disons, a eu des velléités créatrices, en gros, après la guerre, les programmes culturels ont été le plus souvent au service de l'écriture. Voilà, on imprime du texte sur le ruban magnétique comme sur une page. L'écriture est ainsi parvenue, d'une certaine manière, à phagocyter un médium qui pourtant, a priori, semblait devoir lui échapper. Donc le son, commandité à distance par un auteur démiurge, absent, lointain, parqué dans son cabinet de travail, et qui, par le biais d'un texte, ou d'une partition, si c'est un musicien par exemple, dicte sa volonté à des interprètes, c'est-à-dire au fond à des intermédiaires, qui ont pour tâche de porter à l'oralité, ou bien de musiquer, d'illustrer, d'ornementer l'ouvrage du maître. Donc des organes, comme disait Artaud, de simples organes d'enregistrement. Et naturellement, c'est le studio qui, dans cette optique, est le théâtre de cette opération dérivée, de cette activité seconde. Un studio qu'il faudrait appeler un studio Gutenberg, fonctionnant comme un laboratoire de phonocopie, de duplication. Studio, espace clos, espace hermétique, lieu retranché, lieu d'exclusion, faux parquet, fausse porte, fenêtre, bâillant sur le vide, des microphones figés au sol ou pendant au cou des girafes et attendant le son pour le piéger, pour le coloniser. En fait, tout un dispositif conçu pour un théâtre des simulacres. Le studio, chambre sonore, sourde, chambre funéraire. Vous savez, dans l'Égypte ancienne, à l'époque pharaonique, il y avait un rituel qui s'appelait le rituel de l'ouverture de la bouche. Alors le prêtre ouvrait la mâchoire du défunt, il éventait avec une plume, de manière à le faire respirer, de manière à le ressusciter un moment. Eh bien, au fond, le processus radiophonique, c'était peut-être, au fond, une variante de cette cérémonie ancienne, c'est-à-dire un réveil fugitif des momies de papier. Et puis, soudain, l'explosion de mai 68. Alors, en mai 68, on peut voir, par exemple, sur certains murs, pas le temps d'écrire. L'homme de radio va être tenté, bien sûr, de lire dans ce graffiti d'étudiant une invitation à abandonner ses pantoufles et sa plume, et à plonger lui-même dans le théâtre des opérations, autrement dit dans la rue, là où officie de nouveau maître du suspense. Et ce que donne alors à entendre les transistors, pas ceux de la radio officielle qui étaient en grève, mais les autres, ce ne sont plus des propos policés, des artefacts, mais des rafales de bruit, détonations, slogans, chants, clameurs, crachements de mégaphones, etc. Tous ces bruits qui, loin d'être de banals éléments de décor, sont des acteurs sonores, au même titre que les paroles. Que la parole, par exemple, haletante du reporter qui écrit avec la voix l'histoire en train de se faire. Mais cette fois, ce récit brûlant ne passe plus par l'imprimé. Dès lors, il a semblé impératif de de ne plus inféoder l'œuvre à un livret ou un scénario préétabli, mais de prendre directement appui sur la réalité sensible dont parlait Valérie, c'est-à-dire sur le vivant. Le vivant avec sa fièvre, son effervescence. En fait, une matière imprévisible et en mouvement. Donc, le théâtre des opérations, ça sera un studio de plein air. Donc, dans le sillage de l'atelier de après 68, on a donc ouvert sur l'immense chantier d'un monde au présent. C'est-à-dire, on a essayé d'aller au-devant des choses, au-devant des événements, s'aventurer dans les champs les plus divers. Mais au cœur de cette recherche, bien sûr, il y a le son. Le son comme matériau vivant, avec sa texture, sa corporéité, sa chair, des pores, des plis, une pigmentation, une plasticité. Et le son sous ses multiples facettes, c'est-à-dire tous les types de sons, d'où le caractère souvent hybride des œuvres. Pas de silhouette imposée, pas d'étiquette, pas de genre, comme on dit. L'œuvre conçue comme un voyage, comme un film sonore, composé de tout ce qui fait son, sans clivage, sans hiérarchie aucune. Par exemple, les ambiances, les bruits qui sont souvent relégués au rang d'indices secondaires, de simples effets de réel chargés d'authentifier le réel simplement, eh bien, peuvent être soudain doués d'une signification symbolique. Vous êtes dans le local d'une organisation caritative. Un vieux cuisinier marocain est penché sur un énorme faitout. Il prépare une soupe qui est destinée à être distribuée à des gens démunis. Il touille la soupe avec sa spatule. La parole virevolte au-dessus du chaudron, tout épicé des senteurs du pays. Le plat qui se prépare, c'est un plat maghrébin, un plat fédérateur. Dans le bouillon, des morceaux de mouton, des branches de céleri, des pois chiches. La baguette de bois impose une ronde à tous ses ingrédients. Kader tourne, brasse, agite. Pris dans le tourbillon du manège, la viande et les légumes flottent. Et puis, ils en viennent petit à petit à fusionner, à danser les uns avec les autres. Non plus en solo, mais comme part d'un ballet collectif. La soupe est la soupe, on l'entend. On l'entend qui mijote, qui frémit, qui pirouette. Elle parle, la soupe parle. Elle parle de mixité, elle parle de partage, elle parle d'harmonie, de fraternité. Alors, dans cette petite marmite méditerranéenne, se joue un acte fort de solidarité. Le cuisinier tend la main, une main en forme de cuillère, si l'on veut, à tous ses frères déshérités. Eh bien, c'est tout cela que nous dit le glouglou de la soupe. Il n'y a pas que les mots qui parlent, bien sûr. Témoin, ce bref passage d'un programme consacré à la guerre du Vietnam, c'est un des premiers programmes de l'atelier, en 70. Un programme pratiquement sans parole, une suite très fluide de tableaux sonores. Nous sommes dans la classe d'une école vietnamienne. Un bruitage naturel, sans retouche, tel quel. Good morning, Vietnam. Voilà. Maintenant, reprenons au début le parcours de l'auteur, puisque au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Que se passe-t-il sur notre plateau petit A, celui de l'opération mentale ? En fait, là, on est dans un domaine un peu mouvant, marécageux même. L'imagination affective, donc difficile d'édicter des stratégies. On n'est pas sur un champ de bataille. Bon, bien sûr, on peut affirmer tout d'abord que l'élaboration d'un projet doit répondre au départ à une motivation, un désir personnel, un faisceau d'intuition. Mais à partir de là, on peut suivre différentes voies. On peut, par exemple, simplement traîner longuement dans un fauteuil comme une vieille chaussette abandonnée. L'opération portes ouvertes, laissant l'esprit divaguer, dériver, laissant affleurer les fantômes. Mais on peut aussi, bien sûr, s'adonner à une recherche purement documentaire, procéder à des repérages, bon, etc. En fait, la finalité de ce travail opératoire est que c'est ce qui se peut à peu, ce qu'on pourrait appeler un champ des possibles. Un champ des possibles. Et qu'apparaissent progressivement, donc, un certain nombre de repères, quelques lignes de force, de fuite, des pistes, ce que j'appellerais des chemins de désir. Donc plus question de rédiger un texte préalable ou un livret ou un scénario contraignant, mais plutôt d'imaginer une sorte de feuille de route provisoire, assez lâche, où figurent quelques lieux-dits, des points de rencontre, des sas par où on peut s'engouffrer. Donc préciser une visée, une perspective, un horizon à rejoindre. Mais avant tout, bien sûr, être imbibé de son sujet. Parce qu'au cours de l'étape suivante, celle de l'approche concrète, il faudra acheminer en fonction des situations rencontrées. Ce n'est pas toujours prévisible, et donc être amené à faire des détours. L'œuvre, comme une sorte de work in progress. Mais ce premier plateau, petit A, est essentiel quand même, parce qu'il continuera toujours à faire office de coulisses pour tous les plateaux à venir. Et le plateau suivant, donc le plateau petit B, c'est celui donc de l'événement sonore, essentiel bien sûr, une scène ouverte donc, hors studio, le plus fréquemment, pas toujours, mais le plus fréquemment. Donc en fait, un sol concret, hein, authentique, le lieu naturel de la source vive, là où bat le tambour du vivant, où la vie est prise en flagrant délit. Donc, surprendre les sons in situ, en situation. Des sons événementiels, des situations opérationnelles. Des sons en conséquence, donc, qui ne baignent plus dans le local aseptisé du studio, dans cette espèce de blanc studio, comme on dit, anonyme, mais tatoué par l'environnement, par l'architecture, notamment la configuration de l'espace. Par exemple, si vous entendez des villes modernes, avec les rues taillées au cordeau, etc., des hauts immeubles, vous avez des sortes d'agglomérés de blocs sonores compacts, je dirais en forme de parallépipèdes, c'est-à-dire ayant épousé la forme de la voirie. Mais à l'opposé, vous entrez dans une vieille ville, au tracé labyrinthique, tout en sinuosité, angle vif, étranglement, recoins, etc. La rue, là, est une chambre de résonance, où le son reste pur, intègre. Les ruisselles ricochent d'un relief à l'autre, ondulent sur les toits de tuiles, s'amortissent dans le creux des cul-de-sac ou des patios, glisse sur les plans inclinés, est aspiré par les brèches des arcades, est modelé par le jeu des pleins et des vides, des effets de masse, de filtres, des poches d'écho, etc. En fait, absorbé par nos activités, on ne prête pas toujours assez attention à notre habitat acoustique. Alors, est-ce qu'il faut être comme les prisonniers enfermés dans une cellule, livré à soi-même pour avoir l'oreille aiguisée? Je propose d'écouter certains détenus d'une centrale. Ils baignent dans un bruit de fond, des fréquences d'un système de ventilation un peu vétuste, mais ce sont des bruits plus ponctuels qu'ils retiennent.
Bah ici, il n'y a pas d'énorme bruit. Quand le surveillant fait le sondage des barreaux, quand il ouvre, quand il ferme la porte, ou quand le chariot de la gamelle la passe, ou... c'est des bruits assez stridents avec le temps qui fait que t'as envie de plus les entendre.
C'est les bruits de clés, des trucs comme ça.
Des clés, quand il y a un surveillant qui marche dans le couloir.
Les bruits d'appel, enfin, les surveillants qui parlent,
interphones. Qui se ferment, ou les portes électriques. Ça fait des bruits comme ça, un peu secs, un peu. En plus, dans les cellules, ça résonne bien.
C'est pénible à la longue. Le bruit devient pénible. Même quand j'écoute parfois des cassettes de la nature, j'ai des cassettes de nature, je m'aperçois que j'ai perdu l'habitude d'entendre des sons comme la mer, comme les oiseaux, la forêt. On perd un sens, quoi. On écoute, le son, le l'ouïe est toujours là, est toujours présente, encore plus fine, parce qu'on est obligé de percevoir des petits bruits. Donc on a toujours l'oreille tendue aux moindres choses, c'est le milieu qui veut ça. Mais les bruits naturels foutent le camp, quoi. On est dans 9 mètres carrés et on n'a que du... On est dans une boîte et tout ce qui rentre dans cette boîte est déformé, transformé par le volume. Alors on est à l'écoute, on est à l'affût. Vous savez qu'il y a les serrures, vous savez qu'il y a les pas avec les chaussures, les pas avec les baskets. Vous savez qu'il y a les radios, les télévisions, les assiettes, l'eau qui coule. C'est très gênant l'eau qui coule d'ailleurs. Dans notre cellule, c'est un bruit pénible. Ces bruits mesquins, ces bruits... On sait par exemple que tel bruit peut représenter telle chose. À travers les années, on sait. Donc on est prévenu tout de suite. Tiens, c'est la ronde des surveillants. Le système de son horloge, là, son mouchoir, se met en route, hop, on entend les clés. Et on sait quand il repart, on sait quand il ouvre la grille, on sait tout ça, c'est devenu coutumier, quoi. C'est ça le bruit de... C'est une ruche, quoi. Bah, le mot, c'est la ruche. Et un jour, on sort de la ruche, quoi. On est des abeilles. De grosses abeilles à deux pattes.
Microphone. Le microphone, c'est une prothèse de l'oreille, on peut dire. Mais une espèce d'oreille décollée. Autrement dit, un outil subjectif. Quand bien même je tiendrai la perche à bout de bras, c'est toujours un peu de moi-même que je ne pourrais éviter d'enregistrer. Dans le sens où mon regard pèse sur les choses, ma respiration les ventile. L'observateur fait toujours partie du fait observé. Il y a un film, Lisbon Story, c'est un film de Wim Wenders, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a curieusement un personnage, c'est un cinéaste, dont le projet créatif se trouve dans une impasse et il entend rompre avec ce qu'il ressent comme l'arbitraire de ses choix liés à des humeurs, à des idées préconçues, etc. Alors il aspire à l'objectivité. Son désir est de ne plus intervenir dans le cours des choses, de ne plus faire de tri dans la réalité. Alors il décide de se promener dans la ville un peu au hasard, sans but, les oreilles bourrées de coton, les yeux mi-clos, les appareils d'enregistrement fixés dans le dos et branchés sans arrêt. Mais bien sûr, sa déambulation s'avère assez vite vaine. Ce qui est capté, c'est toujours plus ou moins que le réel. Donc la démarche de l'auteur de radio n'aura donc pas à voir avec celle d'un huissier aveugle et neutre, d'un archiviste. Le but n'est pas de proposer de prétendus reflets de la réalité, des facsimilés. Il s'agit de documenter le réel, oui, mais en l'écoutant. En l'écoutant, c'est-à-dire en l'interrogeant. Alors bien sûr, il peut arriver parfois que le microphone, par sa présence même, ou bien s'il, disons, s'il est manié par des hallebardiers un peu dépourvus de tact, soit ressenti comme prédateur. C'est l'aborigène d'Australie qui, traqué par l'ethnologue, qui s'écriait « On me vole ma parole ». Voici un extrait d'un programme consacré aux sans, S-A-N-S, sans emploi, sans ressources, sans papier, c'est-à-dire sans droit, sans logis. C'est un jeune Tunisien qui s'exprime là à brûle-pourpoint.
Comment j'ai atterri dans la rue ? J'ai atterri dans la rue parce qu'en fait, elle n'était jamais loin, quoi. Parce que depuis que moi, j'ai grandi dans une cité, donc la vie dans une cité, ça se passe dans la rue, quoi. Ça se passe dehors. Donc voilà, après, on sort de cette cité, on essaye de construire sa vie, puis on se plante, quoi. C'est tout. On essaye de travailler, ça se passe pas toujours bien, parce que le monde du travail, c'est un monde qui n'est pas évident, on n'est pas forcément préparé à ce monde-là. Sauf si on a fait des études et qu'on fait des trucs hyper intéressants et... excusez-moi du terme, mais des trucs qui vous fassent bander, quoi. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, et on est heureux de se lever le matin pour aller bosser, ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance. Donc au bout d'un moment, on craque, et puis après, il y a des tas de choses qui se produisent. C'est les relations familiales qui se barrent, c'est n'importe quoi, c'est un tas de choses qui se cumulent. Puis après, on pète les plombs, on dit on fout tout en l'air, quoi, puis on se casse, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, le pourquoi du comment on arrive à la rue, c'est un peu trop intime, quoi. Je veux dire, ça ressemble plus à des blessures qu'autre chose, et je peux pas... je peux pas, là, devant un micro, vous dire tout ça, quoi. C'est tout.
C'est son nom. Gifle avec rudesse le microphone qui est brandi devant lui. Un microphone perçu comme un outil inquisiteur, indiscret, indélicat, et non pas comme une perche tendue, un gage d'attention, d'écoute. Le microphone qui enquête, qui guette, qui harcèle, mais en joue, somme, encastre, encage. Encage, mais quoi ? Eh bien, cette question, il faudrait répondre. Quelques lambeaux de vérité. Oui, des lambeaux de vérité. Voilà, c'est cette recherche de vérité qui est essentielle. La percée des masques, des apparences, des comportements de façade. C'est pourquoi, par exemple, il faudrait aussi penser à cette notion d'interview. Non, les interviews, ce n'est pas des questionnaires, c'est des rencontres. Et donc, au cœur de l'approche radiophonique, il y a donc, téléguidant le microphone, il y a l'oreille. Celle que Valérie désignait comme le sens préféré de l'attention. Donc, être à l'écoute. Être à l'écoute. S'ouvrir à ce qui advient. Éponger le monde. Intérioriser le son, respirer avec lui, le laisser résonner, déposer son empreinte sur ces multiples membranes de notre caverne organique. Toute écoute, pourrait-on dire, est pariétale. Vous êtes en Laponie, plein nord, en plein hiver, il fait nuit toute la journée, la neige recouvre tout. On a l'impression que le noir ralentit les sons, feutre les sons, le froid les enrobe de givre. Et vous vous contentez d'être là, voilà, présent, poreux, à l'écoute, laissant doucement les choses advenir, les silences où les mots mûrissent, les mots aussi s'incruster en vous. Vous entendez la vie qui s'écoule.
better to stay here.
J'ai choisi de rester ici.
Here, the life goes rather slowly, but...
Ici, la vie s'écoule lentement.
But you get no stress. You can find books there in the library.
Il y a des livres à la bibliothèque.
Is it there? And when summer and spring, late winter, when the sun is going around.
À la fin de l'hiver,
on the snow fields,
lorsque le soleil tourne,
you really enjoy
au-dessus
it.
Des champs de neige, late on se sent winter. Bien.
Sunny days, and which is now not a good time. It is a May, beginning of
fin
of
mai,
June.
Début juin.
The northern winds are blowing. There is no more snow.
Le vent du nord.
But northern winds are blowing and carrying wet snow.
De la neige mouillée.
It is a horrible time.
C'est un mauvais moment.
The end of May and beginning of June. But after that.
Mais après.
Then it is warm somewhere.
L'été est chaud.
You can fish there and go in the woods.
On peut aller dans les forêts, dans les montagnes.
Just be. Not more. Just living.
Se contenter d'être.
Je sens les pensées cheminer dans ma tête. Des jours passent, d'autres vont venir.
Voilà, c'est le poète Lapon qui dit « Je sens les pensées cheminer dans ma tête ». Il croit à l'inscription matérielle non seulement du sonore, mais du flux mental même, puis des battements de cœur qui l'accompagnent. À quoi déjà Artaud répondait d'ailleurs « La pensée fait du bruit », disait-il. C'est Diogène, le philosophe cynique de l'Antiquité, promenait une lanterne en plein midi, comme une sorte de détecteur plus puissant, un accélérateur de lumière. Et le microphone est peut-être de son côté un mieux entendant, une ouïe encore plus fine, capable de déceler dans les moments creux, dans les temps morts, mais aussi au cœur des sons les plus intenses, une part d'inaudible, des mouvements de conscience, des activités discrètes, insoupçonnées, insignifiantes, donc mal perçues. Une sorte de réalité en mineur, de l'infraordinaire aussi. Car ce ne sont pas seulement des états de choses qui sont fixés. La réalité est en fait un champ énergétique, un champ de force en constant devenir. C'est pourquoi j'aime bien comparer le microphone à l'antenne d'un insecte. Voilà, c'est un organe extrêmement sensible qui explore, tâtonne, qui fouine, qui s'adapte à chaque instant aux situations successives, aux accidents de terrain, aux fluctuations sonores. Un instrument de sensibilité et de désir. Un insecte, voilà, oui, pourquoi pas. Ou un fourmilier, si l'on veut. Vous savez, parfois on affuble le micro d'une bonnette coupe-vent. Eh bien, au fond, ça lui donne l'aspect d'un animal. Et l'important, c'est de trouver à chaque fois la distance adéquate, la bonne place, l'angle d'écoute. Donc accommoder, glisser librement dans l'espace. Le microphone questionne, feuillette le réel. C'est un instrument de lecture du réel. Je propose une petite suite maintenant. L'action est située dans un petit quartier de Bruxelles, où là il y a des gens du quart monde, qui squattent quelques vieilles maisons délabrées. Ils n'ont qu'à traverser la rue pour s'engouffrer, pour se réfugier dans des cafés assez glauques. Parfois, ils s'effondrent dans la rue, dans le caniveau. C'est l'un d'entre eux qui joue de l'accordéon dans un bistrot. Henrik.
Ah!
Pour moi, c'est comme tout le monde. Hein. Aller au bistrot, blaguer, de temps en temps, une poule, quoi. Hein. Ça, il faut aussi, hein. Ça fait partie du programme. Hein. Ben. Ça réussit pas toujours. Hein. Ils boivent encore plus que nous, les femmes ici. Oh, j'avais déjà été chez Mascotte. Et ces gens, bon, il faut aller la nuit, là. Oh.
Quel...
Tu vois la femme qui sont. Tu vas faire pipi à la coupe, tu reviens, ton verre est parti. Ça, moi quand je viens à la coupe, moi je bois mon verre, hein, premier avant d'aller, hein, parce que quand je reviens, il reste plus rien. Hein. Et ça reste là toutes les nuits, depuis des années, j'en ai connu beaucoup qui sont mortes. Hein. Bon. Mortes de fatigue, j'avais des chevilles comme ça. Pas de repos, hein. Ils étaient de la cloche, hein. Sur le banc, hein, ils restaient sur le banc, hein, toute la nuit, hein. Des années, hein.
Et à quoi faire?
À quoi faire? À picoler, surtout. Une tartine par-ci, une tartine par-là, c'était la vie, hein. J'en connais beaucoup de femmes qui sont mortes.
Tous les soirs?
Des ans, pendant des années. J'en ai connu une ici, au moins 20 ans, hein. Qu'elle n'a pas eu de chambre, sans chambre, 20 ans. Elle est morte aussi. Mais cette fille, là, oh, elle a souffert.
Il y a une femme bien sous le parterre.
On y va. Tu viens? C'est une personne qui a un peu bu et c'est notre ami Jackie qui veut l'aider à se relever.
J'ai plus d'aide. Allez, lève-toi. Allez,
bon. Allez. Bon, il n'est pas méchant, il veut l'aider.
Allez,
mais tu crois que c'est te dire ma préférée? Mais dans le bon fou pas.
Lèche là.
Mets-toi debout.
Ton mari est là.
Oui, mais si elle rentre pas, ça ne...
Et nous voici maintenant sur le plateau petit C. Au fait, on était déjà un peu sur le studio acoustique. Donc tous ces éléments disjoints, épars, prélevés dans des espaces, des temps différents, il faut les assembler, il faut leur donner une forme. La fragmentation, très bien d'ailleurs, c'est Bresson qui disait que la fragmentation est nécessaire si on ne veut pas tomber dans la représentation. Et effectivement, l'œuvre n'est pas un objet de nature. D'autre part, elle n'est pas non plus réductible à la simple addition, juxtaposition des différents éléments qui la composent. C'est une entité nouvelle, faite des relations qu'entretiennent ces éléments entre eux, de l'ombre qu'ils se jettent les uns les autres. Le vaisseau de Thésée, autrefois, qui était construit avec des pièces de bois, eh bien, ces pièces de bois, dans un assemblage différent, elles auraient pu aussi bien servir à, je sais pas, à fabriquer un chalet, un pont, une grange. Donc, dans la cabine acoustique où ont lieu les roches, les sons, écoutons-les, lancent des appels, péremptoires, ténus, ça dépend. Ils piaffent, pour ainsi dire. Ils sont en attente. Ils nous attendent. Et le montage, dit Godard, c'est une affaire de cœur. Une opération chirurgicale, donc, d'abord, on pourrait dire. Un acte délicat de dissection, même si l'outil, les ciseaux d'autrefois sont devenus aujourd'hui invisibles. Mais opération chirurgicale, j'emploie cette métaphore. C'est Walter Benjamin parlait du montage littéraire. Je cite, je trouve ce texte tout à fait délicieux. « On coupe dans les linéaments précautionneux du manuscrit. Le chirurgien déplace les accents dans les entrailles, brûle les tumeurs malsaines du langage et insère un mot étranger comme une côte en argent. Finalement, la ponctuation recoule tout avec des points délicats. » Donc, sauf à vouloir privilégier certaines portions de réel but, on démonte d'abord, on rabote, on incise, on décolle, on extrait, on condense, on retouche, on nettoie, on déplace, on re-rythme, on agrafe, on suture, etc. C'est un travail d'élagage qui aboutit à un premier tri, la constitution, disons, d'unités discrètes, de noyaux, à partir desquels, donc, une matrice va être élaboré, et puis des éléments d'appoint, les côtes en argent dont parlait Benjamin, pourront être appelés en renfort, des greffes, pour étayer la matière, déjà recueillie pour l'articuler, donc faire entrer le hors-champ, la radio, comme mélangeur, lieu de pluralité, de convergence. Interroger le réel, c'est le faire miroiter. C'est aussi l'annoter, le connoter, le recycler. Deleuze et Guattari auraient dit le déterritorialiser. de dévergonder, le fictionner aussi parfois. Donc là, c'est une opération dramaturgique de construction qui est en cours, une opération de métissage, d'agencement, de distribution, d'orchestration, de multiples combinaisons, des croisements, des chevauchements, tressages, alternances, surimpressions, etc., afin de donner au puzzle une forme, une figure cohérente. Et donc ce qui est mis peu à peu en place, c'est une sorte de chaîne associative, plus ou moins grammaticalisée, c'est ce qu'on pourrait appeler un récit. Mais un récit, pas dans le sens traditionnel d'une histoire qu'on raconte, mais plutôt, disons, un chemin narratif. Développement conceptuel, progression émotionnelle, déroulement purement sonore, etc. Et une narration souterraine. D'ailleurs, ce sont les peintres qui disent souvent qu'est-ce que c'est que la forme ? La forme, c'est quand le fond remonte à la surface. Donc, pas de commentaires, pas de support explicatif. C'est le défilé même des sons qui est signifiant. C'est-à-dire leur organisation séquentielle, la manière dont ils s'emboîtent les uns avec les autres, dont ils dialoguent. Et pourtant, de l'activité radiophonique, on pourrait dire qu'elle est caractérisée par le non-dialogue, justement. Le non-retour, l'absence de réponse directe. Bon, c'est peut-être le phénomène de non-communication par excellence. L'auteur de radio est au bord du vide. À qui peut-il s'adresser ? À tout le monde, c'est-à-dire à personne. À moins qu'il n'appelle discrètement à ses côtés un mystérieux personnage, invisible, une présence fictive, un auditeur fantôme. Et que de ce fantôme insaisissable, incertain, anonyme et pourtant singulier, il fasse un compagnon d'écoute, un interlocuteur, tacite, oui. Et entre eux, s'instaure une secrète connivence, une relation d'intimité, une sorte de bouche à oreille, confidentielle, un partage de souffle. Et finalement, sur notre dernier plateau, le plateau petit D, le fantôme, ce fantôme, va se multiplier, va prendre chair. Une fois terminée, l'œuvre n'est pas close, n'est pas définitivement bouclée. On ne passe pas directement dans le domaine de l'objectal. Non, on reste dans l'opérationnel. Donc l'auditeur est appelé à se glisser à l'intérieur de l'œuvre, non pas dans une attitude de soumission, mais en libre, en turbulent interprète. Et ceci d'autant plus que l'auteur aura pris soin de laisser son œuvre ouverte, de ménager des zones d'attente, des silences, des espaces de questionnement, des aires de doute. Et dans le secret de son écoute, l'auditeur est donc un opérateur. Un opérateur tel que l'entendait Mallarmé dans le livre. C'est-à-dire que c'est lui qui redistribue les feuillets sonores à sa guise. Il est l'ultime opérateur. L'auditeur. Chaque auditeur. Le son, c'était notre personnage principal, en fait. Si furtif soit-il, énigmatique toujours, bien sûr, plus ou moins, est fait pour être prolongé. Le son suggère, taquine l'imagination. Le son est une matière rêveuse. Alors, est-ce qu'on peut dire cela du son de guerre ? Ah, on le saura peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire ça du bruit de canon, par exemple, sur le champ de bataille de Waterloo, où Fabrice Del Dongo se retrouve dans la Chartreuse de Parme ? Stendhal écrit « La peur ne venait chez lui qu'en seconde ligne. Il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal aux oreilles. Ben, » Permettez-moi de terminer sur, disons, des sons plus frivoles, peut-être, plus ludiques en tout cas, ceux du music hall. Un emboîtement de sons, des glissements d'espace, en fait, une dramaturgie sonore.
Les plumes, ça l'abrutit le public. Eh bien, il regarde, il dit, oh, tiens, c'est bien, ou c'est moche, ou c'est beau, ou c'est pas beau. Et puis, c'est tout. Mais après, il faut le prendre.
Alors ?
Eh bien, je le prends. Ah, le public.
Il faut sentir le public. Mr. Engage, on vient de voir, les titis sont en haut. Ça va, les titis, le premier noir, ça va. Mais qui dit ça maintenant ? Plus personne. C'est les premiers noirs qui ont fait les stars. Mais ça n'existe plus maintenant, c'est fini ça.
Lola Montez.
Biscoum, la musique d'horreur.
Maria.
Launay, Mansuel.
De Lansfeld.
Monsieur Blondin, enfin Mansfeld. Beaucoup de gens de l'époque.
Comment vous appelez-vous, Marianne?
Volupta.
Non mais Marianne. Ah, déjà, oui, elle s'appelle Volupta.
Baba Molenskin. Cutie Pullman. Eva de Bratislava. Judy Palomar, Goody Pentagon, Kiki Zanzibar,
Lola,
Lena Funambule,
Lilia,
Lova Moore, Lusa Matchbox,
Lilith,
Miko Miku, Mooney Trafalgar, Norma Piccadilly, Prima Symphony,
Arda Lilith,
Sophia Palladium, Super
Lilith.
Galaxy, Trucula Bonbon,
Liloum,
Usha Starlight, Vanilla Banana,
Lilatou,
Victoria Rodeo,
Alila,
Laïla,
spelled
backwards,
Loulou,
Ul-Ul.
Lou, Lilia,
Polly
Underground.
Lili.
Non, je peux demander deux gramelières à ce Serge.
Je fais des claquettes avec ce type-là. Oh,
quel type?
Vous pouvez marcher sur un pied, c'était une éponge.
Quel type?
Il faut porter en soi le chaos pour enfanter d'une étoile absente.
Deux amours, mon pays et pays, Paris au Paris. La 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 la
la.
Dis-toi, à l'air de bouquin pornographe, hein, vicieuse.
Vicieuse.
Tiens,
thank you.
carita. Voici ma
carita. Oh, cette Lily.
C'était ma vie. Oh, de Paris.
C'était très bien.
C'était la vraie Miss Tinguette.
Que...
une belle Miss Tinguette.
C'est une femme extraordinaire.